Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et les vraies voix sont en ce vendredi 22 janvier en mode astral, puisqu'il y a 429 ans aujourd'hui, naissait l'astronome français Pierre Gassendi, et ce soir, les VV vont se livrer une véritable guerre des étoiles. Des vraies voix, il est le Jupiter, à la fois le roi des dieux et la plus grande planète du système solaire, Philippe Bilger. En plus, ça rime avec Jupiter.
Rien que ça, mais Philippe, vous ne faites plus dans l'hyperbole à mon sujet maintenant.
Ah non, je suis dans la mini-bole.
Vous êtes dans la rétention.
Jupiter, c'est quand même pas mal.
Oui.
Mais vous allez être gâté, vous aussi.
Non, mais vous réservez l'hyperbole à Jean Dorido, psychologue.
Oh, vous allez voir. Des vraies voix, elle est la Vénus, puisqu'elle est la déesse de l'amour et de la séduction. Et non pas parce que la planète Vénus est la seconde la plus chaude du système solaire. Yaël Mellul.
C'est moi, j'adore. Merci Philippe, j'adore.
Et il m'a semblé entendre dans le casque Philippe Bilger faire une rime avec Vénus. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
En général, Vénus est dans le plus simple appareil.
Non, moi,
n'est pas le cas d'Yaël.
J'avais entendu que vous faisiez rimer Vénus avec Olibrius. Mais bon, c'est pas grave.
Oh, non, ça vous est réservé, cher Philippe.
Ça vous va, Yaël, d'être la Vénus des vraies voix?
Mais évidemment, j'adore.
Et enfin, des VV, il est le Mercure, puisque sa voix chaude de psychologue fait monter le thermomètre à chaque fois qu'elle s'exprime. Logique, puisque Mercure est la planète la plus proche du Soleil, Jean Dorido. Mercure est aussi le dieu du commerce, avez-vous quelque chose à nous vendre?
Eh bien écoutez, je vous vendrai pas de bonne humeur, parce qu'on a tout ce qu'il faut avec vous, mon cher Philippe David, et la planète la plus proche du Soleil, ça veut dire que le Soleil, c'est vous.
Oh,
parce
non,
que
quand même pas.
J'ai le plaisir d'être tout près de vous en studio, c'est un bonheur.
Alors, si vous n'avez rien à vendre, moi oui, c'est votre livre, Le Bonheur est une science exacte, publié chez Larousse.
Merci de le rappeler.
Et c'est Philippe un David. Grand bonheur de vous avoir tous les trois. Et Jean-Marie Bordry pour les rois de l'info et le clin d'œil des VV, Jamel à la réalisation, Léa au standard et Doris au web. Nos débats du jour à 17h30, le référendum sur le climat aura-t-il lieu? Oui, parce qu'avec le calendrier électoral où on ne sait même pas quand les régionales aura lieu, caser un référendum en prime, ça va être un peu compliqué. Notre second débat, 66 millions de procureurs, dont un dans les vraies voix, Philippe Bilger, enfin ex-avocat général, Macron a-t-il un problème avec le peuple? Ce sera notre second débat. Enfin, notre grand débat, vous avez vu que le bac va encore être raboté cette année, le Covid-19 aura-t-il réussi à tuer le bac? Ce sera notre grand débat. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300, comment vont les vraies voix en ce vendredi 22 janvier?
À merveille.
Yaël?
Très bien.
Super bien.
Vous êtes des astres célestes, vous l'avez entendu, Jupiter, Vénus, Mercure. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de table, non pas du système solaire, mais de l'actualité?
Avec joie.
Avec plaisir.
Et bien c'est parti pour le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Et on commence avec vous, Yaël Mellul, qui prenez la tête d'un groupe de travail sur les violences psychologiques subies par les enfants. Et je me permets de vous applaudir par anticipation.
Oh, merci beaucoup Philippe. Écoutez, j'ai été très très émue ce matin, parce que c'était la première réunion du groupe de travail lancé par Adrien Taquet, donc un groupe de travail que j'ai l'immense plaisir et honneur de piloter. Le sujet, ce sont donc les violences psychologiques sur enfants, qui sont un phénomène massif et encore très 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 mal connu. J'ai découvert absolument abasourdi le peu de données que nous avons sur les violences psychologiques subies par enfants, étant précisé que nous travaillerons à la fois sur le harcèlement scolaire et le harcèlement dans la sphère dans la sphère intrafamiliale. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui, ce sont les chiffres des données du 119, donc Enfance en danger, quand les enfants ils appellent ou l'entourage appelle pour signaler des faits. Donc l'échantillon est à peu près de 66 000 appels. On est donc sur une base d'échantillons qui est extrêmement sérieuse, et on constate déjà que plus de 30% des appels concernent les violences psychologiques, et que les violences psychologiques, c'est le premier sujet qui est évoqué par les enfants qui appellent. Voilà, donc c'est un sujet qui est pas assez traité, qui est méconnu. On rappelle aussi que il y a 700 000 enfants qui sont harcelés par an, ce qui est absolument énorme. On rappelle aussi que, hélas, trop souvent, la conséquence traumatique la plus extrême, la plus grave du harcèlement moral, et ben c'est le suicide. Il y a, hélas, des affaires de suicide d'enfants, ensuite de harcèlement moral subi. Et nous allons traiter, nous allons explorer cette problématique parce qu'encore une fois, sur ce sujet, comme à l'époque, je l'avais rencontré au niveau des violences subies par les femmes, nous n'avons aucune donnée. Si ce n'est les statistiques nationales sur les suicides, qui sont absolument catastrophiques sur les adolescents, puisque le suicide est la deuxième cause de mortalité pour les adolescents. Donc il va falloir étudier tous ces chiffres. Et enfin, appréhender à sa juste gravité ce phénomène massif des violences psychologiques subies par les enfants.
Philippe voilà. Bilger, on a quand même une vraie voix qui nous fait honneur avec Yael Mellul et sa nouvelle mission, après celle contre
Bien
les violences
sûr.
Faites aux femmes.
Mais je vais tout de même me permettre de lui poser deux questions. Est-ce que la notion de harcèlement est précisément définie dans votre commission? Et pourrais-je savoir, ma chère Yael, qui en fait partie, à part évidemment l'illustrissime animatrice?
Alors, c'est un groupe de travail interministériel. Donc, tous les ministères concernés font partie du groupe de travail. Alors, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, la délégation de l'aide aux victimes. Il y a des psychiatres, Marie-France Sirigoyen, qui est spécialiste donc sur le harcèlement ouais. moral. C'est elle qui a fait rentrer le harcèlement moral du travail dans le code pénal. Donc, pour répondre à ta question, Philippe, sur une définition du harcèlement, nous allons la donner. Mais pour le moment, nous en tenons aux définitions qui émanent du code pénal, avec, et ce n'est pas exclu que je propose une petite refonte du code pénal sur le harcèlement moral sur enfant, avec justement la création d'un délit spécifique sur le harcèlement moral sur enfant, avec la circonstance aggravante du suicide et de la tentative de suicide.
Jean Dorido.
Une infraction de plus, ma chère Yael.
Absolument, qui n'existe pas, c'est un vide juridique.
Absolument. Voilà. Jean Dorido, vous êtes fier d'être aux côtés d'Yael Mellul.
Ah, mais depuis toujours, j'ai une grande fierté d'être aux côtés de Yael. Et ben, c'est évidemment essentiel, tout ce qui va dans le sens de la protection des enfants. On voit, hélas, au fil de l'actualité, à quel point les enfants sont extrêmement fragiles et extrêmement maltraités. Il y a ces violences psychologiques, les violences physiques. On peut rappeler qu'il y a des enfants qui meurent chaque année sous les coups de leurs tortionnaires. Il y a des parents tortionnaires, c'est un fait. Il y a des éducateurs tortionnaires. Là, en ce moment, l'inceste est au cœur de l'actualité. Et c'est vrai que c'est manifestement, si on se autorise l'optimisme sur le sujet, c'est comme si la collectivité que nous formons les uns les autres est en train de réaliser à quel point
Absolument.
Nous ne prenons pas soin de nos enfants, alors Absolument. Que c'est notre richesse, c'est notre responsabilité, et tout ce qui va dans le sens d'une protection améliorée des enfants dont nous sommes responsables, un adulte est responsable des enfants qui l'entourent, tout ça va dans le bon sens.
Et elle, Mellul, il y a une affaire dont on a reparlé, c'est une enfant Absolument. De 11 ans qui s'est suicidée. Certains des enfants,
absolument,
sont passés devant le juge ou la juge d'instruction.
Et
manifestement, elle s'est suicidée suite à du harcèlement alors qu'elle avait changé d'établissement. Mais ça avait l'air de leur faire ni chaud ni froid. C'est pas quand même terrible de voir des gamins de 11, 12, 13 ans qui font preuve d'autant d'inhumanité.
C'est terrible. Il y a une violence chez les adolescents. Dans cette catégorie d'adolescents qui est absolument effrayante, et cette affaire elle est terrible. Et même le fait que ces trois gamins ils aient été mis en examen pour harcèlement moral cette semaine, en soi c'est une nouvelle qui est terrible. Des gamins de 11 ans mis en examen, c'est terrible. Mais c'est une situation qui existe. La chef d'établissement avait déjà été mise en examen quelques mois auparavant.
Oui, parce que c'était pas la chef d'établissement, c'était une prof qui avait fait carrément un coup où elle avait pris la gamine en bouc émissaire. Prof, voilà, hallucinant.
Exactement, absolument. Donc c'est des situations qui sont hélas trop de plus en plus fréquentes.
Philippe Bilger. Jean Dorido, vous avez la parole en premier. Jean Dorido.
Comme d'habitude.
Je me dépêche, si j'ose dire. Non, c'est-à-dire que, encore une fois, toutes ces affaires nous rappellent la responsabilité de l'adulte. Un enfant n'est pas responsable. Et ces violences, je dirais, entre enfants, rappellent à quel point nous sommes devenus des adultes extrêmement violents. La société que nous avons construite, que nos parents, nos grands-parents ont construite sans peut-être réaliser ce qui se passait, est une société terriblement violente, et les enfants sont des enfants symptômes en réalité.
Philippe Bilger.
Puis-je apporter une contradiction dans ce merveilleux consensus ? Je ne suis pas sûr que vous ayez... une autre analyse de ces trois jeunes enfants et de la professeure ne puisse pas être faite, parce qu'en réalité, on se rend compte, quand on lit l'article en question, que la situation qu'ils ont à gérer est extrêmement difficile à analyser, à maîtriser. Je ne sous-estime pas, évidemment, la terrible tragédie qui a abouti au suicide. Mais en amont, c'est parfois très difficile pour de jeunes enfants de comprendre qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose de grave sur une jeune psychologue.
Ça veut dire
peut-être... Pardon. Oui. Et pardon, ma chère Yaël, d'apporter un peu de contradiction
à votre... Tu as raison, Philippe. Non, tu as raison.
Excusez-moi, je vais faire une remarque au psy et je donnerai le mot de la fin à Yaël. Il y a une chose en psychologie, je peux me tromper, ça s'appelle le surmoi. Moi, je vois notre génération, on avait quand même du surmoi, il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Est-ce que le surmoi a disparu chez les jeunes générations ?
Alors, le surmoi, c'est un terme qui est freudien, bon, qu'on peut tout à fait utiliser, c'est vrai, c'est l'ensemble des règles, précisément, qu'un individu assimile. Et ce que dit Philippe Bilger est évidemment tout à fait juste, c'est-à-dire que précisément, quand des enfants dysfonctionnent, ils rappellent à quel point les adultes qui sont chargés de leur éducation, parents, famille, professeurs, la collectivité, finalement, tout entière, finalement, n'est pas à la hauteur, parce que, comme vous le dites, Philippe David, il n'y a pas l'assimilation de ces règles essentielles pour pouvoir, justement, vivre en individu civilisé.
Le mot de la fin, Yael Mellul.
Écoutez, moi, je suis très contente d'avoir ce groupe de travail pour enfin pouvoir travailler sur ce phénomène que j'ai découvert être de masse. Et pas assez connu, donc j'espère pouvoir lui faire davantage connaître. Et je suis encore sous le choc un petit peu des chiffres que j'ai trouvés, hein, parce que quand on sait les effets que cette violence-là ont sur les adultes, on imagine ce que ça fait sur les enfants, les désastres, et quand on sait qu'en plus, au bout, il peut y avoir, et c'est pas une vue de l'esprit, vraiment pas, il peut y avoir des tentatives de suicide, voire des suicides, voilà, il faut sonner la sonnette d'alarme à un moment donné, il faut la tirer, pardon, je me suis remis les pinceaux.
Bravo.
Vous avez compris l'idée, quoi.
On a tout compris. Bravo à vous, ma chère Yaël, vous êtes bien dans Les Vraies Voix, il est 17h15, on va se retrouver dans quelques instants avec Philippe Bilger, Yaël Mellul et Jean Dorido. Pour notre premier débat, ce sera 17h30. Le référendum sur le climat aura-t-il lieu ? Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido et Yaël Mellul. C'est le second tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger va nous parler du livre de Yasmina Reza intitulé Serge.
Magnéto Serge.
Là, en effet, mon cher Philippe, le grand avantage de la subjectivité, c'est qu'elle peut avoir les admirations qu'elle veut. Et bien sûr, elles peuvent être discutées, mais je viens de terminer le livre, le roman de Yasmina Reza, Serge, et je continue à penser qu'elle est notre plus grand écrivain français, avec Michel Houellebecq. Et je sais bien que tout ça peut être discuté, mais Yasmina Reza, je ne saurais trop vous conseiller cet admirable roman qui est, pour aller vite, mon cher Philippe, d'une drôlerie tragique, d'une tragédie au bord du rire, avec un ton inimitable, un style éblouissant, une personne qui a l'art de faire rire et d'émouvoir en faisant visiter Auschwitz par une famille juive. C'est absolument éblouissant. Et Yasmina Reza partage avec Houellebecq un avantage dans la vulgarité d'aujourd'hui, c'est qu'elle intervient peu, on la voit peu médiatiquement, et elle n'éprouve pas le besoin de donner son avis sur tout et n'importe quoi, comme tant d'écrivains ou d'artistes médiocres.
Yael Mellul.
Ah ben ça me donne très très envie de le lire, Philippe, merci beaucoup. Hein.
Ah, il faut le lire, Yael,
ah, oui,
vraiment,
le lire. Oui, oui,
il t'emballera.
Ouais, ouais, j'en suis absolument persuadée, merci Philippe, vraiment.
Mm. Et alors, vous aimez les livres de Yasmina Reza?
Ah, moi, si j'aime... Oui, 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 je mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, et puis ça fait très longtemps que je... trop longtemps que je ne lis pas. Ah, ça fait un vrai souci là, quand on est un grand lecteur et qu'à un moment donné on arrête de lire, c'est pas bien. Donc je vais m'y remettre. Et Philippe qui m'a donné envie de m'y remettre.
Voilà. C'est la bonne résolution 2021 d'Yael Mellul, enfin une des premières.
Et Philippe, oui. j'aurais pu parler de, évidemment, de celle qui écrit des pièces magnifiques.
Bien sûr.
Comme art, c'est extraordinaire.
Absolument,
quoi.
Absolument.
Et le roman est très intéressant parce qu'elle a réussi une synthèse entre le récit et la théâtralité. Mais je ne veux pas enlever les mots de la bouche de Jean Dorido, qui est impatient, et je le vois là.
Non, mais
Jean Dorido,
c'est vrai que je
il
le
est
sens
dans les starting blocks.
Mais
là.
Oui, j'ai le sens qui boue à vous écouter, Philippe Bilger, parce que c'est vrai que j'ai entendu parler de ce roman Serge de Yasmina Reza, et vraiment, ça a l'air absolument sensationnel. Pour l'instant, je n'ai entendu aucun avis contraire. Toutes les personnes qui lisent ce livre sont positivement bouleversées, emballées, et c'est vrai, merci d'avoir rappelé qu'Yasmina Reza fait partie des auteurs vraiment les plus exceptionnels qu'on a la chance d'avoir chez nous. Et pour la petite histoire, j'ai vu dans le journal qu'elle a assisté, Yasmina Reza, au procès de Jonathan Daval.
Ah ouais,
elle était présente. Alors vraiment, j'avoue que j'ai hâte de savoir ce qu'elle va en faire, parce quand on a une telle créativité, un tel talent, je la soupçonne avec tendresse et admiration de préparer quelque chose que j'ai hâte de découvrir.
Bah, quand on parle d'un procès, on va donner la parole à l'avocat général pour commencer, et à la défense avec Yael Mellul pour continuer. La parole est à monsieur l'avocat général.
Jean, si vous me permettez deux anecdotes personnelles, j'ai eu la chance dans une rubrique que j'ai créée en 2015, Bilger les soumet à la question, d'avoir la chance de la questionner, et elle est évidemment d'une intelligence éblouissante. Et il y a quelques années, j'ai fait pour la première fois la rencontre de Yasmina, qui venait précisément me questionner sur la cour d'assises de Paris, puisqu'elle a écrit un livre dont malheureusement j'ai oublié le titre, où elle parle d'une enquête policière avec une précision et un réalisme indépassables.
La parole est à la défense, maître Yael Mellul.
Ah non, mais moi je trouve que vous parlez tellement bien d'elle, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des personnes comme elle aussi brillantes et intelligentes.
C'est bon d'admirer.
Ça fait du bien d'admirer,
du bien,
en fait,
ouais,
absolument. Vrai. Parce que c'est rare, en fait. C'est très rare, donc cette intelligence-là, elle fait du bien. Voilà, ça nourrit, ça fait avancer, ça fait grandir.
J'ai envie de poser une question à Philippe Bilger. Vous avez passé Yasmina Reza à la question. Vous l'admirez, mais question, est-ce qu'elle vous admire?
Non, mais vous me prenez pour un imbécile, Philippe, vous ne croyez
je
pas
ne
que
permettrai pas.
Je ne crois pas, vous ne croyez pas que je vais répondre à cette question. Sincèrement, vous me jugerez vaniteux en mentant faux modeste.
Alors, bon, ça veut dire que l'analyse du psychologue...
Ben, l'analyse du psychologue, c'est que vous avez le talent, Philippe David, de faire ce qu'on appelle en psychologie des doubles contraintes. C'est ce que vient de dire Bilger, c'est la question, finalement, la personne ne peut pas répondre, parce que quoi qu'elle dise, elle est piégée.
Blocage, impasse.
Bon, et vous admirez Philippe Bilger autant qu'Yasmina Reza?
Je serais vanité de dire que je suis son plus grand fan. Enfin, je fais partie du fan club.
Et vous, Yael Mellul?
Mais moi, je suis présidente du fan club. Voilà, s'il vous plaît.
Mais Philippe, je ne savais pas que les vraies voix étaient le grand échiquier. Je croyais que c'était les vraies voix.
Ah non, c'est les vraies voix, c'est pas le grand échiquier. Donc, vous avez entendu les conseils de Philippe Bilger. Il y a un livre à acheter.
Voilà.
pied dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Elles sont encore ouvertes, profitez-en. Faites-les travailler plutôt que d'acheter sur Amazon, soit dit en passant. C'est le livre Serge de Yasmina Reza. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 17h25. Dans quelques instants, notre premier débat. Le référendum sur le climat aura-t-il lieu ? Oui, vous savez qu'Emmanuel Macron a promis un référendum sur le climat, mais il faut trouver une place dans le calendrier et c'est très compliqué. Pour le moment, vous êtes 88% à penser qu'il n'aura pas lieu. Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Make our planet great again.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Retour des vrais voix avec Philippe Bilger, Ariel Melul, Jean Dorido. Super intro de notre réalisateur Jamel. Emmanuel Macron a promis un référendum aux Français pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. Mais entre un calendrier électoral si serré qu'on ne connaît même pas la date des régionales et une majorité sénatoriale susceptible de faire durer le plaisir, le référendum a beaucoup de plomb dans l'aile. Le référendum sur le climat aura-t-il lieu ? Et bien pour le moment, vous êtes 88% à dire non sur Twitter. Tiens, on commence avec vous, Philippe Bilger. C'est sûr que là, le calendrier, on ne sait même pas quand les régionales vont avoir lieu. C'était mars, maintenant c'est juin, mais peut-être septembre avec la pandémie. Le président de la République voulait repousser après la présidentielle. Ça va être difficile de faire un référendum si on repousse encore les régionales, surtout après la présidentielle. Parce que là, on se fera accuser de calcul politique.
En effet, Philippe, mais à mon sens, il y a quelque chose de très éclairant dans ce référendum qui peut-être n'aura pas lieu. C'est que les Français ont immédiatement perçu, derrière la démarche clientéliste du président de la République, le coup politique qu'il voulait faire. Et c'est très rassurant, finalement, sur la sagesse du peuple français, auquel on ne peut pas faire avaler n'importe quel couleuvre tactique. Ce qui me paraît très sympathique, j'allais dire sur le plan démocratique, c'est qu'il me semble qu'une majorité de Français, j'ai encore lu récemment les résultats d'un sondage, a perçu ce qu'il y avait de bassement tactique dans cette volonté de faire un référendum, d'abord parce que le président a d'autres chats à fouetter véritablement, et d'autre part parce qu'on a compris à quel point c'était une sorte de racolage vulgaire d'écologistes qui tout de même ne s'en laissent pas compter parce qu'ils sont capables de distinguer les vraies ambitions écologiques des tristes manœuvres présidentielles.
Yael Mellul, qui ne va peut-être pas nous parler de racolage vulgaire.
Non, mais en revanche je suis l'analyse de Philippe point par point, je veux dire, surtout quand on voit le sondage là qui est sorti et que on constate que 64% des Français jugent que ce référendum est avant tout une manœuvre politique. 64%, c'est absolument énorme. Je crois que personne n'est dupe. On est un peuple qui est très politique, très politisé. On peut pas se foutre de nous éternellement. Je veux dire, ce n'est pas possible. C'est tellement évident que ce référendum est un coup politique. Personne n'est dupe. Et en plus, sincèrement, vraiment, si ce référendum se fait, je suis pas certaine qu'il y aura beaucoup de gens qui se déplaceront. Hein. Vraiment, hein. Il n'y a pas de Gaulle qui veut, hein, franchement.
Jean Dorido.
Oui, non, là, c'est vrai que c'est difficile d'apporter de la contradiction sur le sujet, parce que vraiment, l'idée d'un référendum, je dirais de façon générale, c'est plutôt sain de demander son avis à la population. Maintenant, c'est vrai qu'un référendum, à ce moment-là, vous venez de le rappeler, alors qu'on ne sait même pas si on va voter pour les régionales. Et sur ce sujet-là, faut être constitutionnaliste pour évaluer la pertinence d'inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution de la 5e République.
Mettre la protection de l'environnement, pourquoi pas la fin du malheur, la fin de la tristesse, qu'on ne veut plus de maladie.
Là, pour le coup, merci de votre aide. Non, là, pour le coup,
parce que là, c'est vraiment le référendum à l'eau de rose. Hein, excusez-moi.
Alors,
même s'il est fait pour faire plaisir aux
vers. Je ne vous rejoins pas sur l'analyse. La protection de l'environnement, c'est quelque chose d'absolument essentiel et urgent. Donc, c'est très bien d'en parler. Maintenant, la forme du référendum, je la trouve assez malheureuse. D'autant plus que le dernier référendum en date, c'était sur la Constitution européenne, précisément, en 2005. Et les Français ont été quand même très, très échaudés, puisqu'ils ont répondu non à ce référendum. Et c'est passé ensuite à travers le traité de Lisbonne, qui a été voté, j'ai envie de dire, en scred, comme disent les mômes, hein, un petit peu comme ça, en catimini l'été. Donc c'est vrai que c'est ce qui a été dit par Yaël et Philippe Bilger, c'est vraiment une espèce de segmentation marketing, une espèce de racolage auprès d'un électorat vert qui a fait un gros carton aux européennes précédentes.
Aux municipales.
Et aux européennes précédentes. Yannick Jadot a fait un score de dingue aux européennes, c'était la surprise des européennes, et c'est vrai que c'est assez dégoûtant, quoi, dans le fond.
Direction. Et sans compter, pardon Philippe, sans compter que dans la Constitution, il y a déjà quelque chose qui n'est pas loin de répondre à cette préoccupation. Sous votre contrôle, je crois que ça doit être l'article premier ou quelque chose qui renvoie déjà peu ou prou à cette ambition écologique.
Yaël ?
La démarche, elle est assez perverse en plus, hein, parce que la question telle qu'elle est posée, enfin, je veux dire, on peut difficilement répondre non. Enfin, je veux dire, faut.
Ah bon c'est sûr.
Évidemment, quoi. Donc, il y aura forcément. C'est forcément oui.
Si vous faites un référendum, voulez-vous la fin des marées noires, bon, évidemment, tout le monde va voter
et
oui.
Et ça, inévitablement, ça va être utilisé comme une adhésion quelque part au pouvoir en place. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu. Ça s'appelle la manipulation politique, hein, en réalité. Hein. Donc, voilà, pour moi, c'est un procédé qui est pervers.
Jean Dorido, on va au 0826-300-300.
Précisément, non, pour nourrir la saine contradiction. Non, je dirais que justement, c'est ça qui est très important de noter, c'est que la question n'est pas « voulez-vous sauver la planète ?» Tout le monde sauve la planète. La question, c'est de savoir est-ce qu'on inscrit dans la Constitution la protection de l'environnement, et on sait à quel point, depuis de trop nombreuses années maintenant, le Conseil constitutionnel a remplacé justement le suffrage du peuple souverain, puisqu'il est extrêmement fréquent que le pouvoir législatif, comme les lois sont faites par le peuple en France à travers les parlementaires, eh bien ces lois sont retoquées précisément par le Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui est très grave, c'est ça l'enjeu du référendum s'il a lieu, c'est d'inscrire dans la Constitution la protection de l'environnement.
Les vrais voix aiment la nature, et on va partir du côté d'un endroit magnifique pour sa nature, direction les Cévennes, direction Alès. Bonjour Melvin.
Bonjour à tous.
Bonjour Melvin.
Bonjour.
La nature est magnifique vers chez vous, je pense au Mont-Aigoual, etc.
On est bien.
C'est une région dont notre directeur Bruno Dubois est amoureux, il faut le dire, il adore les Cévennes. Alors est-ce que pour vous, le référendum sur le climat aura lieu ou pas?
Moi, je pense que pour Macron, il devrait avoir lieu, parce qu'au-delà du coup politique qui est visible par tous, je pense que d'un point de vue, on va dire philosophique, c'est quand même très intéressant, parce qu'il nous met dos à dos face à deux choses différentes. À la fois notre envie de protéger le climat, et à la fois notre haine envers Macron. Et ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va être le plus prépondérant. Est-ce que ça va être notre haine de Macron qui va nous faire voter non, ou notre on va dire amour pour
en
l'écologie.
Clair, je vous coupe, vous voulez dire une chose, est-ce qu'on va répondre à la question sur l'environnement, ou est-ce qu'on va dire non au président en place? C'est bien
voilà, et je pense que malgré le coup politique, si on vote sérieusement, je pense que c'est quand même assez intelligent, je pense. Même si je suis pas du tout d'accord avec Macron, hein, je dis juste qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce référendum d'un point de vue calcul politique, quoi.
Alors justement, on va faire réagir les vraies voix. Merci beaucoup Melvin Dallès. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver si on faisait ce référendum, que Macron, et Emmanuel Macron n'étant pas le président le plus populaire de la Ve République, les gens disent on a peut-être une occasion qu'il fasse comme De Gaulle en 69, c'est-à-dire qu'il démissionne en cas d'échec, on va voter non.
Mais c'est le propre de ces régimes où le peuple est consulté trop rarement. Il est évident que déjà, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, on connaît un petit peu la perversion de ces référendums qui deviennent peu ou prou des plébiscites pour ou contre. Et si jamais le référendum était mis en œuvre, il est évident que certains en profiteraient, en dépit de l'intérêt de la question, pour proposer une... Un, une expulsion démocratique d'Emmanuel Macron qui peut-être ne tirerait pas de conclusion décisive d'une réponse négative. D'ailleurs, tout le monde n'est pas de Gaulle.
Mais évidemment qu'il ne tirerait aucune conclusion, il n'a pas démissionné un an avant... avant les présidentielles, enfin je veux dire c'est complètement...
Excusez-moi, le général de Gaulle a démissionné après un échec et un référendum.
On n'est pas de Gaulle qui veut, c'est bon, on n'a pas de Gaulle, hein, c'est pas de Gaulle, donc il ne faut pas s'attendre à... Enfin moi j'y crois pas du tout, et je ne crois pas du tout non plus s'il y avait le référendum, que ce soit le nom qui sorte. Enfin je veux dire, ça ne peut pas être possible, et ça nous montre justement à quel point le truc il est pervers, hein, parce que c'est une question qui est posée, on ne peut que répondre oui. Quelque part, je veux dire, être de mauvaise foi que dire l'inverse.
Jean Dorido, le mot de la fin.
Le mot de la fin, non, c'est vrai que quand bien même ce serait un calcul politicien, ce qui est vraiment en dessous de tout, parce que la France traverse l'une des pires crises de son histoire en ce moment, elle est déjà une ardoise absolument inouïe quand on sait ce que coûte un référendum. Si c'est une bête histoire de calcul politicien, ce serait vraiment pas à la hauteur pour le coup. Et je rejoins Yaël et Philippe sur le fait qu'il n'est pas du tout assuré, loin s'en faut, que le président tire des conclusions et se retire en cas d'un non-référendum. Il y a un précédent là-dessus. Certes, de Gaulle était parti en 69. Pour autant, souvenez-vous des élections législatives de 1986. C'était la toute première fois qu'un président de la Ve République, c'était François Mitterrand, n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale, puisque c'est à l'époque le RPR, l'UDF, qui avait remporté les élections. Tous les commentateurs de l'époque, toute la presse disaient, le président Mitterrand va se retirer, il ne peut plus gouverner. Et non, Mitterrand, toujours très, très, très imbu de lui-même et méprisant, a dit non, mais moi j'y suis, j'y reste. Voilà, et ça a été la première cohabitation de la cinquième.
Vous êtes bien sûr Sud Radio, 19h39, verdict de ce premier débat. Le référendum pour le climat aura-t-il lieu? Vous êtes désormais 87% à dire non. Tout de suite, notre second débat. 66 millions de procureurs, Macron a-t-il un problème avec le peuple?
Les vraies voix Sud Radio.
Et on écoute ceci.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs.
Après les Gaulois réfractaires ou ceux qui ne sont rien, c'est la nouvelle saillie verbale du président de la République qui fait beaucoup jaser. On savait que la France comptait 66 millions de sélectionneurs, on sait désormais qu'elle compte aussi 66 millions de procureurs. 66 millions de procureurs, Macron a-t-il un problème avec le peuple? Vous êtes 94% à dire oui sur Twitter. Jean Dorido.
Ben vous pouvez dire 95%.
Mais c'est l'heure du duel.
Ah. C'est l'heure du duel.
Et direction la Gironde, une autre région magnifique après les Cévennes. Bonjour Claire.
Bonsoir.
Et vous êtes d'où en Gironde?
Moi je suis de Soulac, au bord de l'océan.
Soulac, juste à côté de la Pointe de Grave, c'est l'été de mes 16 ans, j'en garde un souvenir magnifique.
Tout à fait.
Et c'est l'heure du duel avec Philippe Bilger, on vous écoute. Est-ce que pour vous Emmanuel Macron a un problème avec le peuple?
Non, moi je crois qu'il a surtout un problème avec l'authenticité, ce monsieur, enfin notre président. Parce que pour moi c'est toujours mon président qui a été... J'ai voté pour Emmanuel Macron. Donc ses discours de campagne donc étaient pour moi théâtraux, mais il semblait pétri d'humanisme. C'est pour cela que sa personnalité m'a attirée. Et son programme, me convenait à peu près, mais en face, il n'y avait pas, ça ne me convenait pas. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que l'authenticité est la qualité première d'un leader. Et je crois qu'il est meilleur acteur que, il est très bon acteur. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit monsieur qui, le masque est en train de tomber. Je crois qu'en effet, il n'aime pas les gens, hein, il n'aime pas les gens du tout. Hein, et en particulier le peuple. Bon, au cours de sa carrière, depuis même qu'il était ministre de l'économie, il a fait pas mal de dérapages, hein. En particulier aux abattoirs de Gad, là où tout les personnels. Voilà, absolument. Bon, en vrai, on ne va pas tout citer. Il a fait quelques dérapages. Bon, ce qu'il faut quand même penser, c'est qu'on peut être un jour fatigué, énervé, et puis faire des dérapages. Bon, c'est vrai que les présidents, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas.
Ça rappelle le titre d'un livre avec François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. D'Avet et l'homme du monde.
Absolument, mais là, on s'y retrouve. Mais par contre, là, ce que je pense actuellement, c'est que, c'est une situation quand même assez extraordinaire que nous vivons.
Et... Alors Claire, c'est un duel. Philippe Bilger vous répond. Et là, c'est un duel de titans.
D'abord, Philippe, je vous remercie de me permettre de peaufiner une argumentation que j'ai eu la chance déjà ce matin de développer grâce à l'excellent questionnement de Patrick Roger à la matinale. Je ne suis pas totalement d'accord avec Claire parce que je la trouve là, en l'occurrence, un peu sévère. On sait que le président, au début de son mandat, avait eu des saillies, des foucades qui avaient pour dénominateur commun de critiquer les Français, systématiquement. Et puis, il y a eu une forme de rémission durant un an et demi, deux ans. Et là, il recommence en étant très agacé, en affirmant que tous les Français sont des procureurs. Eh bien, le président devrait s'habituer au fait que ça n'est pas le pouvoir qui a le droit de juger les citoyens, mais les citoyens qui ont le droit et le devoir de juger le pouvoir. Et on sent bien la tentation qui pointe dans ce propos, comme ce serait bien un quinquennat qui ne serait jugé qu'à la fin. Malheureusement, les citoyens ont tout le temps le droit de juger le pouvoir. Pardon d'être un peu long, mon cher Philippe.
Jean Dorido.
Ben alors, je vais apporter mon soutien à Claire. J'ai vraiment tendance à penser que oui, notre président, il a quand même un problème avec le peuple. Alors peut-être c'était le cas d'autres présidents avant lui, parce que c'est quand même, c'est vrai que la République, elle est quand même, elle porte au pouvoir des personnes issues de la bourgeoisie, voire de la très grande bourgeoisie. Donc il y a déjà, voilà, une confrontation de classe quand même au départ. Le truc, c'est que c'est vrai que notre président, il a du mal à le cacher sans refaire le florilège de tout ce qu'il a sorti. Il avait inauguré la station F pour les start-up, c'est dans une ancienne gare, et il avait dit ben c'est bien une gare, c'est là où on croise à la fois les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Donc super, merci président pour
l'analyse du psychologue.
Pour les gens qui ne sont rien. Ben, c'est vrai que l'analyse du psychologue, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de psycho pour comprendre que ce monsieur est une représentation de la population avec vraiment la start-up nation, hein, il appelle ça les premiers de cordée, vous savez, et puis les losers, les personnes, peut-être qu'il pourrait être copain avec Trump d'ailleurs, parce qu'il n'aime pas les losers non plus, Donald Trump. Et c'est vrai qu'il y a manifestement un vrai mépris qui est affiché, que je rejoins Claire, je trouve qu'elle a raison. Pardon Claire, excusez-moi, je m'inscris en faux par rapport à vous. Vous le trouvez bon comédien, notre président? Je ne le trouve pas très bon comédien. Je trouve que vraiment, ça finit par se voir comme le nez au milieu de la figure, qu'il méprise les petites gens.
Elle a un physique d'actrice, et elle, Mélule.
Alors moi déjà, je ne me sens absolument pas offensée d'avoir été qualifiée de procureur. J'adore l'idée. Hein. Donc moi ça me va.
C'est un fantasme d'avocat. Ça.
Ah, c'est un grand fantasme pour moi d'être procureur. Et j'espère devenir une réalité. Donc moi ça me va très bien hein, de défendre les intérêts de la société en réalité, parce que c'est ça un procureur. Donc je vois, je cette espèce de dénigrement systématique qu'il a sur la société que nous composons me révulse en fait quelque part. Et quand on continue dans ses propos, il y a quelque chose qui m'a encore plus effrayée même quelque part. Hein. Il continue en disant nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent sur la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation. D'accord ? Donc nous ne sommes pas une grande nation en réalité, en l'état. C'est ce qu'en pense le président Macron. Et c'est moi, c'est ce passage, moi, tout mal. Là, pour le coup, je me suis sentie offensée. Vous voyez, qu'ils disent que nous sommes procureurs, moi, quelque part, on sent une très grande amertume, en réalité, de ne pas pouvoir faire ce qu'il a totalement envie de faire. Voilà, il n'est pas libre, il est frustré parce qu'on est là, on critique, on dénonce, et lui, il nous sort, on a le droit à l'erreur. Non, t'as pas le droit à l'erreur à ce niveau-là, en réalité.
Philippe,
on n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là.
Vous,
vous
qui fûtes avocat général.
D'une part, Yaël, je n'interprète pas de la même manière que vous, c'est ce qui fait une grande nation, mais peu importe. Deuxième élément, et Philippe, je pense sous votre contrôle, s'il y a des Français qui ont le droit d'être procureurs, c'est bien en cette période où on ne peut pas dire que la gestion sanitaire a été remarquable. Et troisième élément, mais là je ne suis pas en désaccord avec Jean, qui l'oserait d'ailleurs, mais je vais simplement dire, je ne crois pas profondément que Macron méprise les petites gens. Je crois qu'il a un problème avec lui-même, en réalité, qu'il a une telle conception du pouvoir qu'elle ne permet pas que le peuple s'y immisce. Ça ne veut pas dire qu'il le méprise. Mais pardon, c'est peut-être un sujet qui appellerait des débats beaucoup plus vastes.
Le mot de la fin à Claire de Soulac.
Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve, c'est que il a fait des erreurs, mais il n'en tire pas de leçons là. Et ça serait bien aussi qu'il sache revenir un petit peu sur ses propos et puis qu'il s'améliore. Hein. Nous, moi, j'étais cadre auparavant, cadre infirmier, et on sait ce que c'est qu'un retour sur expérience. Hein. Oui. Ça s'appelle un retour sur expérience. On en tire des procédures d'amélioration. Et ça, n'importe quel process, là, les procédures d'amélioration, c'est du B.A.B.A. pour tous les cadres, hein, et pour tous les personnes de n'importe quelle entreprise. Bon, pourquoi non plus ne pas faire les choses simples et expliquer simplement.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Claire de Soulac. On salue, il fait beau à Soulac ?
Ah, il a fait une superbe journée.
C'est parmi les plus belles plages de France, les plages du Médoc. Avis aux auditrices et auditeurs de Sud Radio, c'est un endroit absolument fabuleux. Verdict sur Twitter, 66 millions de procureurs, merci beaucoup à Claire. Macron a-t-il un problème avec le peuple ? Pour le moment, vous êtes 95% à dire oui. Et si on jouait un petit peu ? Eh ben oui, on va jouer avec Jean-Marc Bordry, mais dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Yael Mellul. Et il est venu sans les tambours, mais avec les trompettes pour jouer. Bonjour mon cher Jean-Marie Bordry.
Bonjour mon cher Philippe.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Quand est-ce que vous amenez le tambour à la place du chat ?
Mais j'attends que vous en jouiez. Le tapis rouge, je l'attends aussi. Les trompettes, c'est pareil. Mais écoutez, bon, on n'est plus servi aujourd'hui, mon cher Philippe. Bonjour à toutes les vraies voix, en tout cas sur Sud Radio.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Jean-Marie.
Et bonjour à Florian aussi, bonjour. Au 0826 300 puis Anthony. Salut Florian.
Bonjour.
Bienvenue. Bienvenue à vous. On a encore quelques jours pour vous souhaiter une très bonne année, une merveilleuse année 2021. Alors, on ne va pas s'en priver.
De même.
Allez, mon cher Florian, je vous propose de choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Jean Dorido, Yael Mellul ou Philippe Bilger.
Philippe Bilger.
Bah oui, mais je suis là tous les jours, évidemment. Je fais partie de la famille, en quelque sorte.
C'est ça. Exactement. On a tous un Philippe Bilger chez soi. Ah oui. Côté du sapin de Noël, voilà. Bon, je rappelle les règles, je vais vous poser trois questions. Vous répondez, Anthony, en premier. Si vous vous trompez, ce qui peut arriver, eh bien, les trois vraies voix se battent. Si c'est Philippe Bilger qui est la bonne réponse, eh bien, vous avez le point quand même. Il y a plus d'insolites que de culture générale aujourd'hui. Ça devrait donc plaire, hein, Philippe Bilger.
Oh, on savait être pour Florian.
Allez, on y va, Florian. Première question, quand même. Allez, un petit peu de culture, un peu d'histoire. Tiens, le 22 janvier, sachez-le, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la journée franco-allemande. On célèbre l'amitié entre nos zwei peuples. Alors, un petit peu d'histoire. Quel président français a voulu montrer l'amitié franco-allemande, Florian, en tenant longuement la main du chancelier allemand à Verdun? Lequel là?
François Mitterrand.
1-0.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre Florian. Bravo, c'était il y a 35 ans, le 22 septembre 1984. On a appelé ça après plutôt le geste de Verdun, Mitterrand et Helmut Kohl. Allez, on passe tout de suite aux insolites, cher Philippe Bilger. Je vous emmène, Florian, dans l'Aveyron. C'est une histoire assez rocambolesque. Un Aveyronnais a porté plainte à la gendarmerie après s'être fait à moitié désosser sa BMW. Il lui manquait les portes, les clignotants, les sièges. Et une bonne partie des équipements effectivement électroniques, c'est presque la deux chevaux de Bourville qui ne pouvait plus marcher. Les gendarmes ont enquêté. La voiture a bien été désossée dans le garage de l'Aveyronnais et on a découvert à la fin que c'est le voisin qui a fait le coup. Question,
Pourquoi, d'après vous, Florian, première possibilité, il a désossé la voiture par jalousie parce que la BM du voisin était plus belle. Réponse numéro 2, il a désossé la voiture par vengeance et effectivement, son voisin faisait du tapage nocturne. Réponse numéro 3, il a désossé la BMW juste pour récupérer des pièces détachées et réparer sa propre voiture, d'après vous ?
La 3.
Oui, c'est ça. Effectivement, interpellé, le propriétaire de la mauvaise voiture a reconnu les faits. Il a expliqué son geste par, je cite, son goût de la mécanique et l'envie de rénover son propre véhicule. C'est la Dépêche du Midi qui nous l'apprend. Écoutez, on est bricoleurs.
Il y a des originaux,
hein. C'est déjà gagné.
Un homme plein de bon sens.
Dernière devinette. Je vous emmène en Grande-Bretagne. Vous avez déjà gagné, Florian. Un Britannique a dû dépenser en livres sterling près de 330 euros parce qu'il s'inquiétait, effectivement, de voir son chien boiter. Quel a été le diagnostic du vétérinaire d'après vous ? Réponse numéro 1, le chien boitait pour attendrir son maître et récupérer des croquettes supplémentaires. Réponse numéro 2, le chien boitait parce qu'il avait vraiment mal, oui, ça arrive aussi. Réponse numéro 3, le chien boitait parce qu'il imitait la démarche de son maître.
Je sais pas, je dirais la 3, moi.
Bravo, à la grande surprise du maître. Il s'est avéré que c'était un chien empathique. C'est-à-dire que le maître s'était cassé la cheville, il marchait à cloche-pied avec des béquilles, et du coup, le chien s'est mis à marcher sur trois pattes.
Excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr que le maître regardait pas le PSG jouer à la télé et qu'il a pas imité Neymar ? Parce que vous le touchez à peine, il boite tout le temps.
Non, le maître a vraiment très mal à la cheville, et le chien s'inquiétait pour son maître, ça arrive.
Heureusement que le maître ne s'est pas suicidé.
Effectivement, mais touchante fidélité et amitié entre les chiens.
À Florian.
Bravo Florian, 3-0, tout seul.
Quel score.
Grand chelem. Sans l'aide de Philippe Bidger et les autres, on n'a rien pu faire. Bravo à vous. Restez en ligne, Florian, du côté d'Anthony. Et puis, on va vous envoyer quand même un mug Sud Radio. En tout cas, on vous embrasse.
Merci à vous Florian, vous êtes bien dans les vraies voies. Merci Jean-Marie Bordry, 17h57 à 18h30. On va se retrouver pour notre grand débat. Le Covid-19 va-t-il réussir à tuer le bac ? Oui, la question se pose puisque déjà le bac est modifié alors qu'on est qu'au mois de janvier. Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. I
ain't afraid of no case. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix sont en mode Dallas aujourd'hui, puisqu'il y a 40 ans, le 22 janvier 1981, était diffusé le premier épisode de la série américaine. Et les vraies voix ont toutes quelque chose des héros de Dallas, les idées en plus, le pétrole en moins. Bilger rime avec JR, logique, puisque c'est le bad boy des VV. Ah, est-ce que ça vous va ?
Mais ça me va totalement, j'ai toujours beaucoup aimé celui qu'on détestait. J'ai toujours préféré l'affirmation d'une personnalité à la mièvrerie de la morale.
C'était pas Bobby Ewing, ton idole, on l'a compris. Hein.
Alors,
JR, formidable.
C'est la Pamela des VV, pas Anderson, mais Ewing. Et alors, je vous ai préparé un très mauvais jeu de mots, mais comme disait Victoria, c'est le principal.
Pas mal.
Il y a elle Bénul.
C'est mignon.
Elle est parfaite.
Les deux.
Ça vous va, Yael ?
Les deux.
Ah, moi, ça me va. Tout me va. J'adore Dallas. Moi, j'adorais Dallas.
Avec son regard de braise et sa gentillesse légendaire, même si pour Philippe Bidger, il est maintenant mièvre, c'est le Bobby Ewing des vraies voix, Jean Dorido.
C'est ce que je craignais. Ben écoutez, ça me va bien parce que, en attendant, Patrick Dufy avait quand même la carrure, en plus l'élégance, et dans L'Homme de l'Atlantide, il portait un petit slip de bain jaune qui a fait vraiment des émules depuis. Donc oui, je prends.
Ah oui, depuis que j'ai entendu ça, je rêve de vous voir en maillot de bain et Philippe Bilger avec un chapeau de cow-boy.
Arrêtez de faire fantasmer, Yael.
Avec seulement un chapeau de cow-boy.
Vous me vendez trop de rêves.
Franchement, ma chère Yael, entre Jean Dorido en maillot de bain et Philippe Bilger avec un grand chapeau de cow-boy, vous choisissez quoi ?
Bah, y a pas photo.
Dormir, je vais faire la sieste.
Pourquoi choisir ?
Elle me choisit avec un chapeau et un maillot de bain, voilà.
C'est tout.
Écoutez,
elle fait une synthèse. Elle fait une synthèse.
Le chapeau risque de rétrécir une fois que vous serez dans l'eau. À 18h30, notre grand débat. Le Covid va-t-il réussir à tuer le bac? Vous êtes 88% à dire oui. Ça va les VV, prêts pour cette deuxième heure?
Ah mais surtout que la première a été formidable, Philippe.
Eh ben écoutez, c'est grâce à vous.
Elle a même eu des sujets intéressants.
Et on va continuer par un nouveau tour de table de l'actualité.
Mais on est chez les fous, là.
J'ai une intelligence et un physique très moyen.
Ah bon?
À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue?
Le tour de table
de l'actualité.
Et Jean Dorido voulait nous parler du chèque santé mentale proposé par la ministre de la santé, de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
Mais oui, écoutez, exactement, parce que c'est un fait, Frédéric Vidal l'a proposé la semaine dernière, et puis notre président, précisément, était hier sur l'Université de Paris-Saclay, et il a confirmé précisément et annoncé des mesures pour prendre soin de nos étudiants qui, on ne le rappellera jamais assez, vont extrêmement mal. Et le président a dit que nous avions conscience, paraît-il, qu'ils vont mal. Je ne suis pas sûr précisément que les personnes qui nous gouvernent, réalisent à quel point les étudiants vont mal.
Je vous donne un chiffre, un sondage Odoxa publié avant-hier nous disait que 30% des étudiants ou des jeunes vont consulter un psy.
C'est-à-dire que c'est précisément toute la question de ce chèque, si vous voulez, ce chèque psy, c'est que c'est aussi l'occasion de rappeler que la psychologie est très très mal prise en charge par notre société. L'accès aux soins psychologiques est très difficile puisque les psychologues représentent la seule et unique profession de santé qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie lorsqu'elle s'exerce dans un cadre libéral. Et ça, c'est absolument unique dans le paysage. Vous allez voir un médecin à l'hôpital, vous retournez voir un médecin libéral, la prise en charge est la même. Oui. Un kinésithérapeute, c'est pareil. Une infirmière, pareil. Un psychiatre, pareil. Un psychologue, c'est la seule et unique profession. Vous allez voir un psychologue à l'hôpital, évidemment que la prestation est prise en charge par l'assurance maladie. Vous allez voir le même psychologue pour la même prestation en exercice libéral en ville, ça n'est pas prise en charge et il est urgent que ça change. Alors peut-être que ce chèque psy ouvre la voie à enfin une prise en charge et un accès aux soins psychologiques améliorés.
Il y a une bellule.
Pardon.
Pardon Philippe, non, c'est très important ça, parce que, pardon de revenir sur ça, mais par exemple pour le traitement des femmes victimes de violences conjugales, il y a un vrai problème justement pour le suivi, un suivi thérapeutique avec un psychologue, qui est absolument indispensable, vital pour toutes les victimes d'ailleurs, qui hélas sont très souvent désargentées et n'ont pas les moyens de ce suivi du tout. Et c'est un vrai problème, Donc si ça peut aider, bien, c'est très bien.
Philippe Bilger.
Est-ce que, Jean, c'est une question, est-ce que derrière cette distinction tout à fait étonnante qu'on fait entre le libéral et l'hospitalier, il n'y a pas un petit peu l'idée fausse que ceux qui vont dans le libéral, en quelque sorte, n'en auraient pas vraiment besoin, alors que le recours à l'hôpital est imprégné par une sorte de nécessité pour la personne qui y va? C'est une idée fausse, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu ça au fond de cette distinction?
Écoutez, alors, mon cher Philippe, je ne pense pas que ce soit cette idée qui soit derrière cette aberration, je dirais, administrative. La piste est plus certainement dans l'historique de la profession de psychologue, qui est un métier qui s'est professionnalisé il y a, en fin de compte, peu de temps, il y a moins de 50 ans. Et donc, si vous voulez, tout ça est très, très lent. Et c'est plutôt, si vous voulez, de par cet historique, ce génome de la profession de psychologue, qui a mis du temps à se professionnaliser, qui a mis du temps à développer une approche scientifique et expérimentale. Et donc aujourd'hui, on arrive à une espèce d'aberration où, pour un même psychologue, une même prestation, vous avez une prise en charge quand c'est dans l'hôpital ou dans un CMP, par exemple, et vous n'êtes pas pris en charge dans le libéral. Le souci, c'est qu'une place en CMP, il y a plus de 6 mois d'attente dans certaines régions, et comme l'a rappelé Yaël, il y a une urgence, il y a un malaise psychique dans notre pays. On a fermé des lits de psychiatrie à outrance ces dernières années, et il est urgent de donner un accès à la prise en charge par des psychologues dont c'est le métier, qui sont des professionnels diplômés par l'université française pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions.
Jean, sans compter que la santé mentale des Français va aller de plus en plus mal.
Oui.
C'est triste de le rappeler et pourtant c'est vrai.
Craindre.
Ah ben oui, non, mais c'est même prévu.
Voilà, c'est prévu avec le stress post-traumatique qui va être consécutif. Hein, ça va être au confinement, au couvre-feu, au virus. Enfin, on va avoir des répercussions au niveau psychique, sociétal, j'ai envie de dire. C'est une évidence et on va être confronté à... Mais déjà, les psychiatres sont confrontés à cette problématique.
Ça, c'est vrai.
Un surcroît d'activité.
Et c'est sûr que malheureusement, la psychiatrie et les problèmes psy sont très mal traités en France. Vous êtes bien sûr Sud Radio, Les Vraies Voix, à 18h14. Dans quelques instants, on va parler du vote par le Sénat hier du consentement à 13 ans. On sera en compagnie de Carl Zéro, auteur du livre 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité. Et à 18h30, notre grand débat, le Covid va-t-il réussir à tuer le bac? Pour le moment, vous êtes 88% à dire oui. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Yael Mélul et Jean Dorido. Hier, les sénateurs ont adopté à l'unanimité un texte qui vise à créer un nouveau crime sexuel sur les jeunes de moins de 13 ans. Cette infraction sera constituée dès lors que l'agresseur connaissait ou ne pouvait pas ignorer l'âge de la victime. Jusqu'à présent, la loi considère qu'à partir de 15 ans, un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec un adulte et qu'il est capable d'avoir un consentement éclairé. En revanche, une personne majeure n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Avec ce nouveau texte, les enfants âgés de moins de 13 ans n'auront donc plus à justifier qu'ils n'étaient pas consentants à des relations sexuelles avec un adulte. Nous sommes en compagnie de Carl Zéro, auteur du livre 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité en France, livre coécrit avec Omaïra Cellier et Serge Garde, un livre publié chez Télémac. Carl Zéro, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue sur Sud Radio. Que pensez-vous de ce vote du Sénat alors que le hashtag MeTooInceste est un des hashtags viraux sur Twitter depuis une dizaine de jours?
Je suis très déçu, évidemment, comme Omaïra Cellier, comme Serge Garde et comme tous ceux qui pensent que l'âge de bon sens pour ce consentement, c'est 15 ans et non pas 13 ans. Et ça exclut, vous noterez, d'office, tous les cas récents qui ont été médiatisés d'abus sexuels, de violences sexuelles, Victor Kouchner, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ou Adèle Haenel, ou Vanessa Springora, toutes ces personnes, il s'agit de 13 ou 14 ans. Donc ça prouve bien que cette proposition de loi, puisque heureusement elle va être réexaminée par l'Assemblée, je crois en février.
Qui a le dernier mot, hein, je le dis pour les auditeurs, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Il y a une proposition de loi qui émanera, d'une députée socialiste, Madame Santiago, et qui, elle, propose 15 ans. Et j'espère que là, la majorité rejoindra cette proposition. En tout cas, on va tout faire pour. On va les faire chier à mort.
Et comment allez-vous les faire, je vous cite, chier à mort? Je me permets de vous citer.
C'est tout con, j'ai que ça à foutre, je leur passe des coups de fil, je dis alors où t'en es. Parce que ce qui est assez marrant, moi j'y connaissais rien, on a fait je connais bien les problèmes de pédocriminalité. Par contre, comment on fait arriver une loi et avant la fin du quinquennat? Alors, je suis en train de découvrir petit à petit. Donc, du haut de ma superbe et n'ayant rien à foutre, j'appelle les gens. En général, ils me prennent au téléphone et je discute avec les députés. Je me rends compte qu'il y a plein de propositions de loi qui sont en préparation. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au lieu de se mettre tous d'accord, ça aurait de la gueule, on prend 7-8 députés, et puis ils proposent une loi tous ensemble. Et ils reprennent, si possible, les 25 mesures qu'on préconise dans 1 sur 5. Et on aboutit à une vraie loi. Et là, en fait, c'est comme d'habitude, c'est un peu la patate chaude, le truc bizarroïde, les commissions Théodule et machin. Et je pense que, vu la gravité de la situation, il est temps de se rendre compte. Parce que cette patate chaude, ça fait 40 ans qu'ils se la refilent. À un moment, il faut se réveiller, les enfants.
Alors justement...
C'est ce que je leur explique au téléphone en disant, mais attendez, là où il y a une volonté, il y a un choc. Gaulle, là, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Et je ne la sens pas pour l'instant, à vrai dire. Je la sens un petit peu. Là avec l'affaire de Camille Kouchner, de Victor Kouchner et de Duhamel, ils sont un peu réveillés. Il y a eu MeTooInceste, ça va dans le bon sens. Mais ce n'est pas juste faire des cabrioles sur les réseaux sociaux. C'est une vraie loi qu'on demande.
Voilà. Alors, justement, parmi nous, parmi les vraies voix, Carl Zéro, on a Yael Mélul qui vient de prendre la tête d'un groupe de travail sur les violences psychologiques subies par les enfants. Elle était avocate. Yael Mélul, ce consentement à 13 ans, vous, en tant qu'avocate, en tant que femme qui défend les enfants, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, écoutez, déjà, je voudrais dire à quel point je suis contente de que ce soit Carl Zéro qui intervienne sur ce sujet. Et je voudrais lui dire tout mon respect pour le combat qu'il mène depuis très longtemps contre la pédocriminalité. Vraiment, bravo.
Merci.
À vous. Je trouve ça extraordinaire. J'ai revu encore il y a un mois le documentaire sur l'affaire Outreau. J'ai été encore et encore bouleversée. Et je ne comprends pas, et je partage en tout point votre analyse, Carl Zéro, je ne comprends pas pourquoi cette problématique de l'âge du consentement est un sujet qu'on n'arrive pas à faire passer depuis des années. Cette problématique de l'âge limite entre 13 et 15 ans, ça fait des années que nous sommes très nombreux, très très nombreux, à avoir exactement la même analyse que vous, Carl Zéro. Et nous ne sommes pas entendus, et là, vous voyez un peu les processus législatifs, la complexité des lois sur les lois, parce que les députés, ils ont envie d'avoir leur blase, en réalité. Voilà, c'est ça le problème. Ils ont envie d'avoir leur blase sur la loi. Voilà, c'est ça. Voilà.
Carl Zéro.
Donc, on n'entend pas une loi machin ou une loi bidule, on n'en a rien à foutre. En fait, c'est tous les Français qui demandent ça. Tous les Français sont d'accord. Et
absolument,
pour dire 15 ans.
Absolument.
Et
absolument.
On nous explique que le Conseil constitutionnel va retoquer une loi qui serait à 15 ans parce que ça les gêne vis-à-vis de l'histoire des mineurs délinquants où il y a une sorte de majorité, si j'ose dire, à 13 ans.
C'est absurde.
Je ferai un petit trait d'humour en disant que maintenant que M. Duhamel ne conseille plus le Conseil constitutionnel, la voie est libre. Il est temps de changer les choses. Il faut qu'il se réveille.
Il faut poser le principe une fois pour toutes qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Voilà, c'est interdit d'avoir un rapport sexuel avec un enfant.
Mais parfaitement, un acte sexuel,
c'est entre adultes consentants.
Absolument.
Adulte consentant, c'est pas chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais pas avec des enfants. Désolé, les gars.
Notre psy Jean Dorido veut réagir.
Oui, non, disons peut-être pour apporter un peu d'optimisme malgré tout et de modération dans ce que j'entends et dans ce que je comprends, parce que c'est vraiment un sujet, il s'agit justement de textes de loi, j'aurais tendance pour ma part à me réjouir de ce qui est une vraie avancée dans le fait d'inscrire un âge en dessous duquel il ne peut pas se poser la question du consentement, parce que j'aimerais rappeler quand même que jusqu'à maintenant ça n'était pas le cas.
Il n'y avait rien dans le code pénal.
Il fallait absolument prouver le viol, c'est-à-dire la violence, la contrainte, la menace, la surprise.
Même à
11 ans. Il y a eu un cas à Cergy-Pontoise récemment. Une fillette de 11 ans a été violée par un homme de 28
ans. Dans un ascenseur.
Peu importe le lieu, c'est que ce qui est très grave, c'est que le parquet et ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de la loi a décidé que finalement, ce n'était pas un viol parce que vous comprenez, la fillette de 11 ans était consentante, elle avait suivi l'homme de 28 ans dans sa chambre. Donc, si vous voulez, je comprends et merci effectivement à Yaël, à Carl Zéro, à Omer Asselier, à toutes ces personnes qui font le job pour faire avancer le sujet, c'est très bien. Pour autant, je ne peux, de mon côté, parce que je rappelle que chaque année dans mon fauteuil, j'ai des personnes qui me rappellent qu'elles ont été abusées pendant leur enfance. Il ne se passe pas une année sans que j'ai ce genre de révélation dans mon cabinet. Et je me réjouis qu'enfin, on inscrive dans la loi que... En dessous de 13 ans, on peut discuter l'âge, mais ça y est, c'est dans la loi, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de question de consentement, la question ne se pose pas.
Carl Zéro, est-ce que quelque part, il n'y a pas un léger progrès pour me faire l'avocat du diable par rapport au fait qu'il n'y avait rien jusqu'aujourd'hui ?
Non, bien sûr, il y a un léger progrès, c'est un tout petit pas pour l'homme et un tout petit pas pour l'humanité en réalité. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit 15 ans, c'est tout, c'est pas bien compliqué à comprendre. Là, c'est un petit arbre frêle qu'on a planté et qui cache la forêt des gens qui ont de 13 ans à 15 ans. Et ces gens-là, au moment où on est en train de parler, au moment où on parle, il y en a d'autres, c'est pas Victor Kouchner ou Vanessa Springora qui sont en train de se faire toucher, abuser, violer. Il y en a au moment où on parle. On fait quoi pour eux ? C'est juste ça, à un moment, ça remonte au cerveau. Ce sont nos élus, ils sont là pour nous représenter. Il faut leur dire sur quel ton, il faut faire quoi ? Des cabrioles ?
Alors, je m'autorise à glisser, si vous me le permettez, une petite idée dans la boîte à idées de M. Carl Zéro. Moi, il me semble, si vous voulez, je me réjouis qu'il y a enfin un âge en dessous duquel il n'y a pas de notion de consentement qui tienne.
Mais
un autre point qui me semble essentiel, c'est d'inscrire l'inceste réellement dans le code pénal, parce qu'aujourd'hui, un homme couche avec sa fille de 19 ans, Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème.
Ce serait pas aussi une bonne chose, Carl Zéro, le mot de la fin, de mettre l'inceste dans le code pénal ?
Bien sûr, et qu'il y ait une définition du viol sur mineur, il n'y en a pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce code pénal.
Absolument.
On a l'impression que depuis des générations, on a tout fait pour que ce truc-là soit mis sous le boisseau et caché. Mais maintenant, il est trop tard, ça y est. Et bien, j'ai découvert, les gars.
Eh bien, Carl Zéro aussi, on peut leur casser les pieds. Je pense qu'on est plusieurs parmi les vraies voix à être prêts à vous refiler un petit coup de main. Merci beaucoup à vous, Carl.
On fera appel à vous. On fera appel à vous.
Vous avez, Carl Zéro, vous avez tout mon soutien. Je suis avec vous
merci,
à 100%, mais vraiment, vraiment.
Merci, Carl Zéro, auteur du livre 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité en France, livre coécrit avec Omaïra Célier et Serge Garde, un livre publié chez Télémac. De suite, on va parler du Bachot. Oui, est-ce que le Covid va avoir la peau du baccalauréat, le bon vieux Bachot? Eh bien, pour le moment, vous êtes 88% à dire oui. On se retrouve avec les vraies voix dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
J'ai raté mon bac, je l'aurais parié, ça n'a pas raté, mais au fond de moi, j'ai toujours le trac à l'idée de...
Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas le bac, hein. C'est en quelle année pour vous, Jean Dorido?
C'était au siècle dernier.
Ah oui, Yael Bellul, vous aussi, c'était au siècle dernier.
Pardon, j'arrive.
Vous, votre bac, c'était au siècle dernier, comme Jean Dorido.
Ah, purée, la vache, c'est vrai, au siècle dernier, mon Dieu. J'avais pas capté, en effet.
Et j'anticipe, Philippe.
Comment ?
J'anticipe, moi, c'était au 19e.
C'est tout à fait logique, il a été créé par Napoléon Ier au début du 19e siècle. Vous avez été un des premiers à l'avoir, Philippe.
Et à l'époque, on mettait, les gens, paraît-il, mettaient sur leur carte de visite bachelier.
Ah oui, non mais
tellement c'était le top.
Ça voulait dire quelque chose à l'époque, le bac.
Je crois que le bac, c'est 1808, et il me semble que la première promotion, il y avait 8 ou 9 qu'il avait eu pour toute la France, ou 11. C'était quelque chose d'exceptionnel d'avoir le bac. La nouvelle est tombée hier soir. Les épreuves de spécialité du baccalauréat qui devaient se dérouler les 15, 16 et 17 mars prochains sont annulées au profit du fameux... contrôle continu. Jean-Michel Blanquer a confirmé cette annonce envoyée par mail au professeur la veille en déclarant, je cite, « J'ai pris cette décision pour créer les conditions les plus sereines possibles pour les élèves. Cependant, dit encore Jean-Michel Blanquer, je cite à nouveau, un établissement pourra organiser ce jour-là s'il en a envie des épreuves qui compteront pour le contrôle continu. Donc ceux qui se préparent peuvent tout à fait continuer à le faire pour cette échéance-là. Mais ce qui comptera pour la note, c'est la moyenne de l'année. Après un vague bac 2020 qui était difficile à rater, on peut légitimement penser que le bac 2021 va être un bac en bois, en chocolat ou en carton, d'où notre grand débat du jour. Le Covid-19 aura-t-il réussi à tuer le bac? Vous pouvez bien évidemment voter au 0826-300-300. Nous sommes en compagnie de Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Jean-Rémy Girard, bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Le bac 2020, on peut dire que c'était difficile de le rater. Bis repetita pour le bac 2021 ?
C'est possible, hein. On va voir comment on harmonise et on organise ce contrôle continu cette année, hein, et comment va fonctionner la commission d'harmonisation ad hoc. Mais c'est clair que quand on s'appuie sur le contrôle continu pour le bac, généralement, on a quand même plutôt tendance à harmoniser à la hausse plutôt qu'à, qu'à baisser les notes qui ont été données par les professeurs pendant l'année. L'an dernier, il y a des pays qui ont tenté de faire ça. Hein. Le Royaume-Uni a tenté de faire ça, d'harmoniser vers le bas. Ils ont très très vite changé d'avis parce qu'ils ont eu un retour de bâton médiatique absolument imparable. Et ça a été très très violent. Donc effectivement, nous en France, on n'a pas eu cette idée-là. On a harmonisé que vers le haut. Les établissements qui notaient de la façon la plus sévère, on va dire. Forcément, on a eu un taux de réussite qui était excellent, en tout cas très élevé.
Alors justement, Jean-Rémy Girard, et avant de donner la parole aux vraies voix, quelle est la fiabilité du contrôle continu? Parce qu'on a tous eu des profs, on va dire, qui notaient large, et des profs qui notaient, comme on disait à mon époque, sec.
Oui, ça existe toujours aujourd'hui. On n'a pas, j'allais dire, et c'est peut-être heureux hein, d'ailleurs, on n'a pas effectivement une manière unique de noter sur toute la France, dans toutes les disciplines, entre tous les enseignants, parce que en fait la notation, ça participe de l'enseignement hein, et de la pédagogie, c'est un élément hein, de l'enseignement, le fait de noter, ça, et d'ailleurs on ne fait pas que noter, hein, on met des annotations, on met des commentaires, et on peut avoir des 12 extrêmement encourageants comme des 14 qui peuvent vous dire que c'est pas si bien que ça, faut tout lire, on va dire, donc oui, ça, de toute façon, on n'y arrivera jamais, je pense pas que ce soit souhaitable, hein. Sur la pratique quotidienne des enseignants, de leur dire faut noter comme ci, faut noter comme ça, parce que à l'arrivée dans un établissement avec des élèves majoritairement en difficulté, je vous le dis, moi je suis pour qu'on ne mente pas aux élèves, mais si à un moment on se retrouve à leur mettre 4 sur 20 pendant toute l'année parce que voilà, c'est objectivement par rapport à tel et tel critère ce qui est fait, on aura beaucoup de mal à faire cours au bout d'un mois et demi. Donc c'est ça la note, c'est aussi pour montrer qu'on fait des progrès. Voilà, donc c'est pour ça que le contrôle continu, c'est pas un truc qui est spontanément adapté à un examen national, parce que ça n'a pas été fabriqué pour ça.
Jean-Rémy Girard, vous allez échanger avec les vraies voix, tout d'abord avec Philippe Bilger qui a eu son bac sous Jules Ferry, donc vous allez voir que là, ça va vraiment nous mettre un coup de jeune. Voilà. Philippe Bilger.
Mais non, c'est beau, c'est beaucoup plus tard. Mais monsieur le Président, est-ce que vous me jugeriez trop conservateur si je disais que le niveau du bac avait déjà baissé très sensiblement avant l'irruption de la Covid-19, et puisque le contrôle continu va devenir, je le crains, pendant longtemps la règle, vous y avez pratiquement répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'il est impossible de concevoir en France un contrôle continu qui soit une méthode d'exigence et de rigueur? Ou est-ce que on peut espérer qu'un jour la transparence sera authentique, ou c'est impossible?
Alors, sur la première question, non, c'est pas conservateur de dire que qu'on n'a pas attendu le Covid pour avoir des taux de réussite au bac absolument exceptionnels. C'est tout à fait vrai. Le SNALC le dit depuis très longtemps. On a une progression, et je parle pas par rapport à la Troisième République. Je suis en train de vous parler par rapport aux années 80.
Non, mais il l'a eu sous Louis-Philippe, voilà. En fait. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, c'est bien avant la Troisième République.
Non, voilà, en tous les cas, non, c'était Versailles.
Voilà, il suffit de voir, ne serait-ce que la question des mentions. Les mentions qu'on obtenait aux années le pourcentage de mentions que les élèves obtenaient dans les années 80 et le pourcentage qu'ils obtenaient dans les années 2010, c'est incroyable. Hein. Ouais. Plus d'un bac sur deux aujourd'hui a une mention, par exemple.
Il y a ça.
Ça, c'est un phénomène global, parce que le bac est devenu simplement une sorte de point de passage. En fait, le bac, c'est plus la fin. Sauf certains bacs professionnels. Le bac, c'est un point de passage vers le supérieur, mais globalement, dans un bac général, tout le monde va dans le supérieur. Donc le bac n'a plus ce rôle, j'allais dire, de dire maintenant qu'on a le bac, on peut rentrer dans la vie active. On fait rien avec un bac général aujourd'hui, globalement, dans la vie active.
Ouais.
Voilà, donc ça, sur ce premier point-là, on est tout à fait d'accord. Hein, le bac a déjà subi beaucoup de choses avant le Covid. Sur le contrôle continu, non, moi je vous le dis très honnêtement, on est sur en tout 13 millions d'élèves, mais même dans les lycéens, plusieurs millions de lycéens, on a plusieurs milliers de lycées. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt, en réalité, d'essayer de normaliser l'évaluation des enseignants. Je pense que ce qui est important, c'est surtout qu'on enseigne des connaissances solides et qu'on puisse s'appuyer sur des bases saines, ne serait-ce que sur la lecture, l'écriture, le calcul. C'est vraiment ça la priorité, plutôt que de dire il va falloir noter comme ci, comme ça. Ça nous a donné les livrets de compétences à l'école primaire et au collège, ces idées-là, et en fait c'est une catastrophe. C'est vraiment terrible, parce que d'un seul coup on n'arrive plus à lire l'évaluation non plus. Donc je ne crois pas que le problème soit la façon dont les profs notent. Il y a quelques dérives, on est d'accord.
La parole,
mais ce n'est pas le problème majeur.
La parole à Yaël Mellul.
Bah moi, je rejoins encore ce qu'a dit Philippe.
Continuez, Yaël.
Voilà. Le bac, il est en carton depuis quand même un certain temps. Hein, avant le confinement, avant le virus, on avait quand même l'impression que c'était offert. Et c'est vrai, je découvre là, parce que moi, je suis un peu sortie du milieu scolaire. Mon fils, il a 22 ans maintenant.
Il avait eu tellement jeune.
Mais c'est ça, voilà, c'est gentil. J'adore. Et du coup, je ne sais plus, vous m'avez perturbée, je ne sais plus ce que je disais.
C'est un élève dissipé, Jean Dorido.
Voilà, et donc c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que le bac, c'est plus du tout, ce n'a plus du tout le même symbolique qu'à notre époque. voilà, qu'au XXe siècle, voilà. Vous nous l'avez dit, hein, c'est plus une formalité, une démarche pour aller vers autre chose. Nous, c'était vraiment quelque chose de sacré, le bac.
On va faire réagir justement Jérémy Girard, président du SNAL. Qu'est-ce qu'à l'époque, le bac, à notre époque, et après Jean Dorido? Ah bah tiens, Jean Dorido, et après on fera réagir, allez-y.
Merci,
parce qu'après
Philippe
on va au 0826 300.
Je fulmine parce que tous ces échanges sont passionnants. J'aimerais rajouter qu'il me semble que la problématique majeure dans tout ça, c'est de savoir comment faire pour que notre système scolaire ne soit pas une machine à reproduire les inégalités sociales. C'est quand même, vous avez parlé de Jules Ferry dans votre grande érudition, comme toujours Philippe David tout à l'heure, c'est quand même la noblesse de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur en France, c'est de réussir à permettre à des gamins intelligents, doués pour les études, justement de donner le meilleur de ce qu'ils ont à offrir en leur donnant accès à une éducation de haut niveau. Et hélas, ça n'est plus le cas depuis longtemps. Alors, et le baccalauréat, précisément, c'est comme une espèce de symptôme de ce système scolaire qui ne va pas très bien, semble-t-il.
Justement, Jean-Rémy Girard, pour réagir à ce que disaient Yael Mulu et Jean Dorido, est-ce que le bac est encore un rite? Et deuxièmement, est-ce que finalement le drame du système scolaire français, c'est qu'il n'explose, il ne fait pas exploser encore les inégalités, c'est-à-dire que les enfants de haut niveau réussissent et ceux des couches populaires ne réussissent plus? Et je vous demande de réagir rapidement parce qu'on nous attend au 0826 300 300.
Alors, sur le premier point, on serait assez surpris de voir que les élèves sont très très attachés au bac et y accordent toujours beaucoup d'importance réalité. Ça peut nous paraître, nous, assez surprenant vu de l'extérieur comme ça, mais c'est vrai, la plupart des élèves sont attachés à passer le bac, à avoir le bac, à voir leurs résultats, à voir s'ils ont eu une mention. Ça se maintient. Et sur la question des inégalités, alors comme je devais répondre rapidement, je ne vais pas pouvoir vous en dire tout, mais le bac et ce type d'examen, comme le baccalauréat, joue un rôle, en fait, en vrai, dans la réduction des inégalités, parce qu'il définit un cadre national. Il définit
un vrai bac, pas un bac avec contrôle continu, précisément.
Voilà, oui, avec des épreuves terminales.
Alors, voilà, merci de le rappeler.
Le SNAL défend en temps normal quand on n'a pas de Covid. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça permet, justement, dans les établissements avec des élèves plus faibles, notamment, d'essayer quand même de les tirer vers le haut, parce qu'on doit atteindre certains types d'épreuves, certaines méthodes, un certain niveau de connaissance. Si on n'avait pas ces examens nationaux, on risquerait à un moment de s'adapter tellement au niveau des élèves qu'on ne les élèverait plus assez. Donc le bac joue ce rôle-là. Il faut absolument qu'il continue à le jouer. Et il ne peut le jouer, une fois encore, en temps normal, qu'avec des épreuves nationales et anonymes.
On part à notre standard, au standard de Sud Radio, le 0826 300 300. Bonsoir Valentin de Castelnaudary.
Oui, bonsoir aux deux Philippe, à Jean Dorido,
bonsoir,
à
Émilie,
vous invitez.
Et alors, si je crois ce qu'on
m'a dit, très belle année à tous.
Bonne année à vous. Si je crois ce qu'on m'a dit dans le casque, vous qui êtes de Castelnaudary, qui est une des capitales du cassoulet, pour le bac, le Covid-19, c'est la fin des haricots.
Bon jeu de mots. Fallait la faire, celle-là.
C'est bien ça.
Moi, je suis un peu du même avis que tout le monde, c'est-à-dire qu'on a, en fait, le bac n'a pas attendu la Covid pour être déjà en arrêt, enfin, dans le coma, quoi, j'ai envie de dire. En fait, la Covid a juste été le point, enfin, l'épée de Damoclès,
ça
a juste achevé. Voilà, le coup de grâce, effectivement, oui. Parce que bon, le bac, ça fait de belles lurettes qu'il s'empire. On a supprimé les filières. Alors, moi, je le regrette parce que je suis assez nostalgique des filières. Alors, avant, il me semble que c'était en lettres, après, c'est devenu les filières S, littéraires et économiques, sociales, comme tout le monde connaît. Je trouve que les filières, en fait, étaient quand même quelque chose d'assez bien, parce que ça permettait déjà, avant même l'université, de déjà s'orienter en fait sur quelque chose que l'on aime. Aujourd'hui, on nous parle de soi-disant spécialité. Bon, ça fait aussi penser aux S, comme quoi les S étaient toujours les plus flamboyants, les meilleurs, etc., que c'était l'élite. Ouais, d'accord, vous êtes l'élite, vous êtes peut-être ingénieur, mais vous savez même pas aligner un paragraphe sans qu'il y ait ne serait-ce qu'une faute dans chaque mot. Enfin bref, c'est quand même un niveau pitoyable. On est la risée presque de l'Europe, que ce soit dans tous les domaines, mais pourquoi? Parce qu'on a complètement délaissé l'éducation nationale, on l'a laissé aller on ne sait où, et surtout on a oublié les fondamentaux. On l'a évoqué aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a atteint, il me semble, l'année dernière 90% de réussite, on s'en félicite, mais se féliciter de quoi? Enfin, le bac est donné aujourd'hui, il n'a même plus de valeur, c'est ça aussi, c'est qu'il n'a plus de valeur de travail, il n'y a plus de mérite.
Valentin, merci beaucoup. Valentin Castelnaudary, je vais faire réagir Jean-Rémy Girard en une minute pour le mot de la fin. Vous avez entendu Valentin qui disait à juste titre qu'on avait oublié les fondamentaux. Je voyais sur Twitter, c'était avec Olivier Babot qui était en livret voix hier, une copie de Master. Il y avait un niveau d'orthographe des années 70, de CE1, CE2. Est-ce que c'est pas hallucinant?
Oui, en fait, et votre auditeur a dit quelque chose de très juste. Voilà, Valentin a dit quelque chose de très très juste. Le problème, c'est pas le bac. Le problème, c'est ce qui se passe avant le bac. Le bac, il est finalement un révélateur d'un état de crise de notre système éducatif, parce que on a massifié énormément le système éducatif depuis les années 60, mais on n'a pas fait en sorte que voilà, les élèves soient toujours dans de bonnes conditions. On n'a pas fait en sorte que le métier de professeur soit suffisamment attractif pour attirer également toutes les personnes qui mériteraient de transmettre des connaissances à nos élèves. Et à l'arrivée, bah, on se retrouve avec un truc où, de toute façon, comme le voilà, comme on est obligé de faire des études aujourd'hui dans tous les pays d'Europe, eh bien, voilà, de toute façon, il va bien falloir que les élèves passent cette barrière du bac pour aller dans le supérieur, sinon on ne sait pas quoi en faire.
Merci.
Mais le problème, c'est pas le bac, c'est le cas avant, et c'est l'enseignement dans l'éducation nationale.
C'est vrai. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, verdict sur Twitter, vous êtes 88% pardon, à dire que le Covid va réussir à tuer le bac. On se retrouve dans quelques instants, je vous donne juste une nouvelle qui vient de tomber. Le gouvernement britannique annonce que le variant anglais donc, est plus contagieux et plus mortel que ce qu'on pensait, une mauvaise nouvelle qui vient de tomber.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Bon, retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Yael Mellul, Jean Dorido. Mais c'est votre tour pour le clin d'œil des Vraies Voix, mon cher Jean-Marie Bordry.
Oui, un petit peu de littérature, je vous le propose.
Oh bah c'est bien.
Qu'est-ce qu'on fait en général quand on est confiné? Bon, on lit davantage, pourquoi pas. Bon, Philippe Bilger, ça ne compte pas parce qu'il lit tout le temps. Il n'a pas attendu le confinement, il faut le lui reconnaître. Eh bien, on vous propose justement, dans ce clin d'œil, de vous mettre à écrire. Une maison d'édition vous propose d'envoyer votre premier roman, tout simplement. Et si jamais vous êtes sélectionné par le comité de lecture, vous serez édité. Ça s'appelle Nouvelle Plume. Bonsoir à vous, Karine Aubringer.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Sud Radio.
Merci.
Vous êtes responsable éditorial de la maison d'édition Nouvelle Plume. Alors Nouvelle Plume au pluriel, justement, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas encore été publiés et qui écrivent un roman, justement. Et vous avez constaté, vous faites ça depuis longtemps, mais vous avez constaté qu'avec le confinement, enfin les confinements, hélas, on écrivait de plus en plus.
Oui, tout à fait. En fait, une étude a montré qu'à peu près 5 millions de personnes se sont mis à écrire pendant le confinement. On trouve surtout dans ces manuscrits qu'on nous envoie des personnes qui avaient écrit un manuscrit plus jeune et pour qui le confinement a permis de ressortir le manuscrit du placard, du tiroir et de se dire « Allez, je m'y remets, je m'y repose et je retravaille ce manuscrit ». Donc effectivement, on a un public d'auteurs qui écrit beaucoup pendant le confinement. Et nous, ce qui nous intéresse, donc la maison Nouvelle Plume propose de révéler en fait les nouveaux talents. C'est une maison d'édition participative. On propose aux auteurs de venir en fait sur notre site internet déposer leur manuscrit.
Voilà,
ce manuscrit va être évalué par notre comité de lecture. Il faut savoir que ce sont des lecteurs, on a environ 1500 lecteurs qui sont bénévoles, qui vont lire les manuscrits, remplir des fiches de lecture pour dire s'ils ont aimé, s'ils ont moins aimé, et qui vont
établir les coups ensuite.
De cœur.
Ils vous voilà. Établissent les coups de cœur. Les coups de cœur sont envoyés ensuite un peu plus haut, et vous regardez ceux, vous choisissez vos vrais coups de cœur que vous éditez, ce qui est une belle chose. Vous le faites d'ailleurs gratuitement, c'est-à-dire que vous proposez un contrat d'édition à ces jeunes auteurs. Alors, ce sont des romans, vous avez trois notamment catégories, si j'ai bien compris, sur lesquelles vous vous spécialisez et pour lesquelles vous remettez des prix. Lesquelles?
Voilà, alors on accepte bien évidemment tous les genres, le policier, le thriller, la romance, l'historique, qui marche plutôt bien chez nous, la fantasy, mais effectivement on a trois prix chaque année, qui sont le prix de la romance, le prix de l'imaginaire, donc qui récompense des titres de fantastique, de fantasy, de young adulte. Et le prix des lecteurs qui inclut là pour le coup tous les genres.
Le coup de cœur de tous les lecteurs dans leur ensemble en tout cas. Qu'est-ce qu'ils vous ont écrit ces jeunes écrivains, jeunes dans la profession puisqu'ils se lancent avec vous, ils essaient de se lancer. En général, qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs romans?
Alors, c'est beaucoup de policiers. Ouais. Beaucoup de policiers, beaucoup de thrillers. On revient un petit peu au genre historique également. Mmh. On a vraiment un retour de l'historique et bien évidemment le genre sentimental qui, sur le marché d'édition, à l'heure actuelle, fonctionne extrêmement bien.
On a besoin d'avoir des belles histoires, en plus.
Voilà, exactement.
Effectivement, on est avec un psychologue, d'ailleurs, Jean Dorido. Ça fait du bien d'écrire ?
Oui, ça fait du bien d'écrire, ça fait du bien de lire. Oui. On parle trop rarement, hélas, de la bibliothérapie, à quel point certaines lectures peuvent vraiment aider à guérir. Donc oui, bien sûr, de toute façon, tout ce qui tourne autour du verbe, ça participe à un processus de guérison et de progrès.
Et sachant qu'en plus, là, on parle de création, effectivement. On va rappeler, ma chère Karine Aubringer, comment je fais si j'étais un auteur, disons-le comme ça, comment je fais pour vous envoyer mon manuscrit ?
Alors, vous vous rendez donc sur notre site internet qui est nouvelleplume.com.
Au pluriel.
Au pluriel, tout à fait. Vous créez votre compte auteur et vous déposez votre manuscrit.
Et ensuite, vous serez lu. Très simple.
Et vous serez lu.
Il ne reste plus qu'à l'écrire.
Exactement.
Alors, on vous attend avec plaisir.
Effectivement, commencez.
Karine, est-ce que vous me permettez de vous poser une question ?
Mais bien sûr.
C'est formidable comme initiative. À cause ou grâce au confinement, est-ce que votre démarche ne vise pas aussi à pallier une crise éditoriale où on a parfois l'impression que de jeunes talents ne sont pas acceptés par des maisons d'édition ?
Alors, ça rentre un petit peu dans la balance, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est très très compliqué pour un jeune auteur de se faire éditer, on le sait. Les maisons d'édition sont surchargées. C'est vraiment très compliqué, c'est pour ça que nous on a décidé de nous adresser vraiment à ces jeunes auteurs en particulier et vraiment principalement à eux pour leur donner un coup de pouce et essayer de leur mettre un pied à l'étrier et de les lancer pour une carrière bien évidemment beaucoup plus longue.
Eh bien bravo à eux en tout cas ma chère Karine Aubringer, c'est formidable en tout cas.
Bravo à vous.
Merci Karine Aubringer, responsable éditoriale de la maison d'édition Nouvelle Plume.
Les vrais voix, on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine à Pornichet, ville de plus de 11 000 habitants dans les Pays de Loire.
Oui Thomas, nous recevons Grégory Roux, directeur de l'agence Orpi Azure 44 Immobilier à Pornichet.
Bonjour Grégory Roux.
Alors Grégory, comment se porte le marché immobilier à Pornichet ?
Bah écoutez, c'est un marché qui est très tendu, très dynamique. On a peu d'offres en ce moment et énormément de demandes.
Alors Grégory, qui pousse la porte de votre agence en temps normal ?
Ceux qui poussent la porte de l'agence, ce sont essentiellement une clientèle de retraités ou de futurs retraités. Traditionnellement, les gens aiment bien quitter les villes pour pouvoir passer leur retraite en bord de mer. En revanche, depuis le mois de mars, on constate une nouvelle clientèle de jeunes quarantenaires qui, eux-mêmes, quittent les villes. Et le télétravail a bien entendu aidé.
Quelle est la tendance sur les prix, justement ?
Alors, nous, on a un marché qui est à géométrie variable parce que Pornichet, c'est une commune qui est à la fois en front de mer et une commune qui est une partie campagne du côté de Saint-Nazaire. Donc, on a des prix au mètre carré qui vont osciller entre 3500 euros et 7, 8, 9 000 euros quand on est sur du face mer.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ?
Bah, moi, je pense que, enfin, c'est un conseil que je donne à tous nos clients. Il faut être à la fois patient et réactif. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé le bien qui convient, tant qu'on n'a pas eu le coup de cœur, ça sert à rien d'aller plus loin. En revanche, une fois qu'on a le coup de cœur, il faut pas traîner, il faut faire une offre et saisir l'opportunité très rapidement.
Merci Grégory Roux d'être passé du côté d'Osez Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Orpi Azure 44 Immobilier à Pornichet. Bah, quant à vous, Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio, Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci aux vraies voix, merci Philippe Bilger, merci Yael Mulul, merci Jean Dorido. Dans quelques instants, Jean-Marie Bordry, avec les vraies voix qui font bouger la France. On prendra des nouvelles des professionnels de la montagne qui souffrent avec nos experts fiduciaires. Et ensuite, dans les actus qui font bouger la France peut-elle se permettre un troisième confinement ? On en débattra avec Tom Conan et Maxime Thiébaud.